Honoré de Balzac, Albert Savarus. Un des quelques salons où se produisait l'archevêque de Besançon sous la Restauration, et celui qu'il affectionnait était celui de Madame la Baronne de Watteville. Un mot sur cette dame, le personnage féminin le plus considérable peut-être de Besançon. Monsieur de Watteville, petit-neveu du fameux Watteville, le plus heureux et le plus illustre des meurtriers et des renégats, dont les aventures extraordinaires sont beaucoup trop historiques pour être racontées, était aussi tranquille que son grand-oncle fut turbulent. Après avoir vécu dans la comté comme un cloporte dans la fente d'une boiserie, il avait épousé l'héritière de la célèbre famille de Rupt. Mademoiselle de Rupt réunit 20 000 francs de terre rente en terre aux 10 000 francs de rente en bien-fonds du baron de Watteville. L'écusson du gentilhomme suisse, les Watteville sont de Suisse, fut mis en abîme sur le vieil écusson des deux Rupt. Ce mariage, décidé depuis 1802, se fit en 1815, après la seconde restauration. 3 ans après la naissance d'une fille qui fut nommée Philomène, tous les grands-parents de Madame de Watteville étaient morts et leur succession liquidée. On vendit alors la maison de M. Watteville pour s'établir rue de la Préfecture dans le bel hôtel de Rupt, dont le vaste jardin s'étend vers la rue du Perron. Madame Watteville, jeune fille dévote, fut encore plus dévote après son mariage. Elle est une des reines de la Sainte Confrérie qui donne à la haute société de Besançon un air sombre et des façons prudes en harmonie avec le caractère de cette ville. De là le nom de Philomène imposé à sa fille, née en 1817, au moment où le culte de cette sainte ou de ce saint, car dans les commencements on ne savait à quel sexe appartenait ce squelette, devenait une sorte de folie religieuse en Italie et un étendard pour l'ordre des Jésuites. Monsieur le baron de Watteville, homme sec, maigre et sans esprit, paraissait usé, sans qu'on puisse savoir à quoi, car il jouissait d'une ignorance crasse. Mais comme sa femme était d'un blond ardent et d'une nature sèche devenue proverbiale, on dit encore pointu comme Madame de Watteville. Quelques plaisants de la magistrature prétendaient que le baron s'était usé contre cette roche. Rupt vient évidemment de Rupes. Les savants observateurs de la nature sociale ne manqueront pas de remarquer que Philomène fut l'unique fruit du mariage des Watteville et des deux Rupt. M. de Watteville passait sa vie dans un riche atelier de tourneur. Il tournait. Comme complément à cette existence, il s'était donné la fantaisie des collections. Pour les médecins philosophes adonnés à l'étude de la folie, cette tendance à collectionner est un premier degré d'aliénation mentale quand elle se porte sur les petites choses. Le baron de Watteville amassait les coquillages, les insectes et les fragments géologiques du territoire de Besançon. Quelques contradicteurs, des femmes surtout, disaient de M. de Watteville « Il a une belle âme ». Il a vu dès le début de son mariage qu'il n'emporterait pas sur sa femme, alors il s'est alors jeté dans une occupation mécanique et dans la bonne chère. L'hôtel de Rupt ne manquait pas d'une certaine splendeur digne de celle de Louis XIV et se ressentait de la noblesse des deux familles confondues en 1815. Il y brillait un vieux luxe qui ne se savait pas de ce mot de mode. Les lustres de vieux cristal taillés en forme de feuilles, les lampasses, les damas, les tapis, les meubles dorés, tout était en harmonie avec les vieilles livrées et les vieux domestiques. Quoique servi dans une noire argenterie de famille, autour d'un surtout en glace orné de porcelaine de Saxe, la chérie était exquise. Les vins, choisis par M. de Watteville, qui pour occuper sa vie et y mettre de la diversité, s'était fait son propre sommelier, jouissait d'une sorte de célébrité départementale. La fortune de Madame de Watteville était considérable, car celle de son mari, qui consistait dans la terre des Rouxey, valant environ 10 000 livres de rente, ne s'augmenta d'aucun héritage. Il est inutile de faire observer que la liaison très intime de Madame de Watteville avec l'archevêque avait impatronisé chez elle les 3 ou 4 abbés remarquables et spirituels de l'archevêché qui ne haïssaient point la table. Dans un dîner d'apparat rendu pour je ne sais quelle noce au commencement du mois de septembre 1834, au moment où les femmes étaient rangées en cercle devant la cheminée du salon et les hommes en groupe aux croisées, il se fit une acclamation à la vue de M. l'abbé de Grancey, qu'on annonça. « Eh bien, le procès !» lui cria-t-on. « Gagné !» répondit le vicaire général. « L'arrêt de la cour dans laquelle nous désespérions, vous savez pourquoi ?» Ceci était une allusion à la composition de la cour royale depuis 1830. Les légitimistes avaient presque tous donné leur démission. « L'arrêt, oui, vient de nous donner gain de cause et sur tous les points et réforme le jugement de première instance. Mais tout le monde vous croyait perdu. Eh, nous l'étions sans moi. J'ai dit à notre avocat de s'en aller à Paris et j'ai pu prendre au moment de la bataille un nouvel avocat à qui nous devons le gain du procès, un homme extraordinaire. » « À Besançon ?» dit naïvement M. de Watteville. « À Besançon ?» répondit l'abbé de Grancey. « Ah oui, Savaron !» dit un beau jeune homme assis près de la baronne et nommé de Soulas. Il a passé 5 à 6 nuits, il a dévoré les liasses, les dossiers. Il a eu 7 à 8 conférences de plusieurs heures avec moi, reprit M. de Grancey, qui reparaissait à l'hôtel de Rupt pour la première fois depuis 20 jours. Enfin, M. Savaron vient de battre complètement le célèbre avocat que nos adversaires étaient allés chercher à Paris. Ce jeune homme a été merveilleux, au dire des conseillers. Ainsi, le chapitre est 2 fois vainqueur. Il a vaincu en droit, puis en politique. Il a vaincu le libéralisme dans la personne du défenseur de notre hôtel de ville. « Nos adversaires, a dit notre avocat, ne doivent pas s'attendre à trouver partout de la complaisance pour ruiner les archevêchés. » Le président a été forcé de faire silence. Tous les Byzantins ont applaudi. Ainsi, la propriété des bâtiments de l'ancien couvent reste au chapitre de la cathédrale de Besançon. M. Savaron a d'ailleurs invité son confrère de Paris à dîner au sortir du palais. Et en acceptant, celui-ci lui a dit « À tout vainqueur, tout honneur !» et l'a félicité sans rancune sur son triomphe. « Mais où donc avez-vous déniché cet avocat ?» dit Madame de Watteville. « Je n'ai jamais entendu prononcer ce nom-là. » « Mais vous pouvez voir ces fenêtres d'ici, » répondit le vicaire général. « Monsieur Savaron demeure rue de Pierron. Le jardin de sa maison est mur mitoyen avec le vôtre. »« Il n'est pas de la comté, » dit Monsieur de Watteville. « Il est si peu de quelque part qu'on ne sait pas d'où il est, » dit Madame de Chavoncourt. « Mais qu'est-il ?» demanda Madame de Watteville en prenant le bras de Monsieur de Soulas pour se rendre dans la salle à manger. « S'il est étranger, par quel hasard est-il venu s'établir à Besançon ? C'est une idée bien singulière pour un avocat. »« Bien singulière !» répéta le jeune homme aidé de Soulas, dont la biographie devient nécessaire à l'intelligence de cette histoire. De tout temps, la France et l'Angleterre ont fait un échange de futilités d'autant plus suivi qu'il échappe à la tyrannie des douanes. La mode que nous appelons anglaise à Paris se nomme française à Londres et réciproquement. L'inimitié des deux peuples cesse en 2 points, sur la question des mots et sur celle du vêtement. God Save the King, l'air national de l'Angleterre, est une musique faite par Lully pour les chœurs d'Esther ou d'Athalie. Les paniers apportés par une anglaise à Paris furent inventés à Londres. On sait pourquoi, par une Française, la fameuse duchesse de Portsmouth. On commença par s'en moquer, si bien que la première Anglaise qui parut aux Tuileries faillit être écrasée par la foule. Mais ils furent adoptés. Cette mode a tyrannisé les femmes de l'Europe pendant un demi-siècle. À la paix de 1815, on plaisanta durant une année les tailles longues des Anglaises. Tout Paris alla voir Potier et Brunet dans les Anglaises pour rire. Mais en 1816 et 1817, les ceintures des Françaises, qui leur coupaient le sein en 1814, descendirent par degrés jusqu'à leur dessiner les hanches. Depuis 10 ans, l'Angleterre nous a fait deux petits cadeaux linguistiques. À l'incroyable, au merveilleux, à l'élégant, ces trois héritiers des petits maîtres dont l'étymologie est assez indécente, ont succédé le dandy puis le lion. Oh, le lion n'a pas engendré la lionne. La lionne est due à la fameuse chanson d'Alfred de Musset. Avez-vous vu dans Barcelone, c'est ma maîtresse et ma lionne. Il y a eu fusion, si vous voulez, confusion entre les deux termes et les deux idées dominantes. Quand une bêtise amuse Paris, qui dévore autant de chefs-d'œuvre que de bêtises, il est difficile que la province s'en prive. Aussi, dès que Lyon promena dans Paris sa crinière, sa barbe et ses moustaches, ses gilets et son lorgnon tenus sans le secours des mains par la contraction de la joue et de l'arcade sourcilière, les capitales de quelques départements ont-elles vu des sous-lions qui protestèrent par l'élégance de leurs sous-pieds contre l'incurie de leurs compatriotes. Donc, Besançon jouissait en 1834 d'un lion dans la personne de ce monsieur Amédée Sylvain Jacques de Soulas, écrit Souleyas au temps de l'occupation espagnole. Amédée de Soulas est peut-être le seul qui, dans Besançon, descend d'une famille espagnole. L'Espagne envoyait des gens faire ses affaires dans la comté, mais ici établissait fort peu d'Espagnols. Les Soulas y réussiraient et restèrent à cause de leur alliance avec le cardinal Granvelle. Le jeune monsieur de Soulas parlait toujours de quitter Besançon, ville triste, dévote, peu littéraire, ville de guerre et de garnison, dont les mœurs et l'allure, dont la physionomie valent la peine d'être dépeintes. Cette opinion lui permettait de se loger, en homme incertain de son avenir, dans trois chambres très peu meublées au bout de la rue Neuve, à l'endroit où elle se rencontre avec la rue de la Préfecture. Le jeune monsieur de Soulas ne pouvait pas se dispenser d'avoir un tigre. Ce tigre était le fils d'un de ses fermiers, un petit domestique âgé de 14 ans, trapu, nommé Babylas. Le lion avait très bien habillé son tigre. Redingote courte en drap gris de fer, serrée par une ceinture de cuir verni, culotte de panne gros bleu, gilet rouge, bottes vernies et à revers, chapeau rond, à bourdin loup noir, des boutons jaunes aux armes des Soulas. Amédée donnait à ce garçon des gants de coton blanc, le blanchissage et 36 francs par mois, à la charge de se nourrir, ce qui paraissait monstrueux aux grisettes de Besançon. 420 francs à un enfant de 15 ans, sans compter les cadeaux. Les cadeaux consistaient dans la vente des habits réformés dans un pourboire quand Soulas troquait l'un de ses deux chevaux et la vente des fumiers. Les deux chevaux, administrés avec une sordide économie, coûtaient l'un dans l'autre 800 francs par an. Le compte des fournitures à Paris, en parfumerie, cravate, bijouterie, pot de vernis, habits, allait à 1200 francs. Si vous additionnez groom ou tigre, chevaux, tenues superlatives et levées de 600 francs, vous trouverez un total de 3000 francs. Or, le père du jeune monsieur de Soulas ne lui avait pas laissé plus de 4000 francs de rente produits par quelques métairies assez chétives qui exigeaient de l'entretien et dont l'entretien imprimait une certaine incertitude aux revenus. À peine restait-il 3 francs par jour au lion pour sa vie, sa poche et son jeu. Aussi dînait-il souvent en ville et déjeunait-il avec une frugalité remarquable. Quand il fallait absolument dîner à ses frais, il allait à la pension des officiers. Le jeune monsieur de Soulas passait pour un dissipateur, pour un homme qui faisait des folies. Tandis que le malheureux nouait les deux bouts de l'année avec une astuce, avec un talent qui eût fait la gloire d'une bonne ménagère. On ignorait encore à Besançon, surtout, combien 6 francs de vernis étalés sur des bottes ou sur des souliers, des gants jaunes de 50 sous nettoyés dans le plus profond secret pour les faire servir 3 fois, des cravates de 10 francs qui durent 3 mois, 4 gilets de 25 francs et des pantalons qui emboîtent la botte imposent à une capitale. Comment en serait-il autrement, puisque nous voyons à Paris des femmes accordant une attention particulière à des sots qui viennent chez elles et l'emportent sur les hommes les plus remarquables à cause de ces frivoles avantages qu'on peut se procurer pour 15 louis, y compris la frisure et une chemise de toile de Hollande. Si cet infortuné jeune homme vous paraît être devenu lion à un bien bon marché, apprenez qu'Amédée de Soulas s'était allé 3 fois en Suisse, en char et à petite journée, 2 fois à Paris et 1 fois de Paris en Angleterre. Il passait pour un voyageur instruit et pouvait dire en Angleterre où je suis allé, etc. Les douairières lui disaient vous qui êtes allé en Angleterre, etc. Il avait poussé jusqu'en Lombardie, il avait côtoyé les lacs d'Italie, il lisait les ouvrages nouveaux. Enfin, pendant qu'il nettoyait ses gants, le tigre Babylos répondait aux visiteurs Monsieur travaille. Aussi avait-on essayé de démonétiser le jeune monsieur Amédée de Soulas à l'aide de ce mot. C'est un homme très avancé. Amédée possédait le talent de débiter avec la gravité byzantine les lieux communs à la mode, ce qui lui donnait le mérite d'être un des hommes les plus éclairés de la noblesse, et il portait sur lui la bijouterie à la mode et dans sa tête les pensées contrôlées par la presse. En 1824, Amédée était un jeune homme de 25 ans, de taille moyenne, brun, le thorax violemment prononcé, les épaules à l'avenant, les cuisses un peu rondes, le pied déjà gras, la main blanche et potelée, un collier de barbe, des moustaches qui rivalisaient celles de la garnison, une bonne grosse figure rougeaude, le nez écrasé, les yeux bruns et sans expression, d'ailleurs rien d'espagnol. Il marchait d'un grand pas vers une obésité fatale à ses prétentions. Ses ongles étaient soignés, sa barbe était faite, les moindres détails de son vêtement étaient tenus avec une exactitude anglaise. Aussi regardait-on Amédée de Soulas comme le plus bel homme de Besançon. Un coiffeur qui venait le coiffer à heure fixe, autre luxe de 60 francs par an, le préconisait comme l'arbitre souverain en fait de mode et d'élégance. Amédée dormait tard, faisait sa toilette et sortait à cheval vers midi pour aller dans une de ses métairies tirer le pistolet. Il mettait à cette occupation la même importance qu'y mit Lord Byron dans ses derniers jours. Puis il revenait à 3 heures, admiré sur son cheval par les grisettes et par les personnes qui se trouvaient à leur croisée. Après de prétendus travaux qui paraissaient l'occuper jusqu'à 4 heures, il s'habillait pour aller dîner en ville et passer la soirée dans les salons de l'aristocratie byzantine à jouer au whist et revenait se coucher à 11 heures. Aucune existence ne pouvait être plus à jour, plus sage ni plus irréprochable, car il allait exactement aux offices le dimanche et les fêtes. Pour vous faire comprendre combien cette vie est exorbitante, il est nécessaire d'expliquer Besançon en quelques mots. Nulle ville n'offre une résistance plus sourde et muette au progrès. À Besançon, les administrateurs, les employés, les militaires, enfin tous ceux que le gouvernement, que Paris y envoie, occupés à un poste quelconque, sont désignés en bloc sous le nom expressif de la colonie. La colonie est le terrain neutre, le seul où, comme à l'église, peuvent se rencontrer la société noble et la société bourgeoise de la ville. Sur ce terrain commencent, à propos d'un mot, d'un regard ou d'un geste, des haines de maison à maison, entre femmes bourgeoises et nobles, qui durent jusqu'à la mort et agrandissent encore les fossés infranchissables par lesquels les deux sociétés sont séparées. À l'exception des Clermont-Mont-Saint-Jean, des Beauffremont, des Dessais, des Gramont et de quelques autres qui habitent la comté, que dans leurs terres, la noblesse byzantine ne remonte pas à plus de 2 siècles à l'époque de la conquête par Louis XIV. Ce monde est essentiellement parlementaire et d'un rogue, d'un raide, d'un grave, d'un positif, d'une hauteur qui ne se peut pas se comparer à la cour de Vienne, car les Byzantins feraient en ceci les salons viennois quinaux. De Victor Hugo, de Nodier, de Fourier, les gloires de la ville, il n'en est pas question, on ne s'en occupe pas. Les mariages entre nobles s'arrangent dès le berceau des enfants, tant les moindres choses comme les plus graves y sont définies. Jamais un étranger, un intrus ne s'est glissé dans ces maisons, et il a fallu, pour y faire recevoir des colonels ou des officiers titrés apparemment aux meilleures familles de France, quand ils s'en trouvaient dans la garnison, des efforts de diplomatie que le prince de Talleyrand eût été fort heureux de connaître pour s'en servir dans un congrès. En 1834, Amédée était le seul qui porta des sous-pieds à Besançon. Ceci vous explique déjà la lionnerie du jeune monsieur de Soulas. Enfin, une petite anecdote vous fera bien comprendre Besançon. Quelque temps avant le jour où cette histoire commence, la préfecture éprouva le besoin de faire venir de Paris un rédacteur pour son journal afin de se défendre contre la petite gazette que la grande gazette avait pondue à Besançon et contre le patriote que la République y faisait frétiller. Paris envoya un jeune homme ignorant sa comté qui débuta par un premier Besançon de l'école du Charivari. Le chef du parti Juste Milieu, un homme de l'hôtel de ville, fit venir le journaliste et lui dit « Apprenez, monsieur, que nous sommes graves, plus que graves, ennuyeux. Nous ne voulons point qu'on nous amuse et nous sommes furieux d'avoir ri. Soyez aussi dur à digérer que les plus épaisses amplifications de la revue des Deux Mondes et vous serez à peine du tour des Byzantins. » Le rédacteur se le tint pour dit et parla le patois philosophique le plus difficile à comprendre. Il eut un succès complet. Si le jeune monsieur de Soulas ne perdit pas dans l'estime des salons de Besançon, ce fut pure vanité de leur part. L'aristocratie était bien aise d'avoir l'air de se moderniser et de pouvoir offrir aux nobles parisiens en voyage dans le comté un jeune homme qui le ressembla à peu près. Tout ce travail caché, toute cette poudre jetée aux yeux, cette folie apparente, cette sagesse latente, avait un but, sans quoi le lion byzantin n'eût pas été du pays. Amédée voulait arriver à un mariage avantageux, en prouvant un jour que ses terres fermes n'étaient pas hypothéquées et qu'il avait fait des économies. Il voulait occuper la ville, il voulait en être le plus bel homme, le plus élégant, pour obtenir d'abord l'attention, puis la main de mademoiselle Philomène de Vadeville. Ah ! En 1830, au moment où le jeune monsieur de Soulas commença son métier de dandy, Philomène avait 13 ans. En 1834, mademoiselle de Vadeville atteignait donc à cet âge où les jeunes personnes sont facilement frappés par toutes les singularités qui recommandaient Amédée à l'attention de la ville. Il y a beaucoup de lions qui se font lions par calcul et par spéculation. Les Vatteville, riches depuis 12 ans de 50 000 francs de rente, ne dépensaient pas plus de 24 000 francs par an, tout en recevant la haute société de Besançon, les lundis et les vendredis. On y dînait le lundi, l'on y passait la soirée le vendredi. Ainsi, depuis 12 ans, quelle somme ne faisait pas 26 000 francs annuellement économisés et placés avec la discrétion qui distingue ces vieilles familles? On croyait assez généralement que, se trouvant assez riche en terre, madame de Vadeville avait mis dans le 3% ses économies en 1830. La dot de Philomène devait alors se composer d'environ 40 000 francs de rente. Depuis 5 ans, le lion avait donc travaillé comme une taupe pour se loger dans le haut bout de l'estime de la sévère baronne, tout en s'opposant de manière à flatter l'amour-propre de mademoiselle de Watteville. La baronne était dans le secret des inventions par lesquelles Amédée parvenait à soutenir son rang dans Besançon, et l'en estimait fort. Soulas s'était mis sous l'aile de la baronne quand elle avait 30 ans. Il eut alors l'audace de l'admirer et d'en faire une idole. Il en était arrivé à pouvoir lui raconter, lui seul au monde, les gaudrioles que presque toutes les dévotes aiment à entendre dire, autorisées qu'elles sont par leur grande vertu à contempler des abîmes sans y choir et les embûches du démon sans y prendre. Comprenez-vous pourquoi ce lion ne se permettait pas la plus légère intrigue? Il clarifiait sa vie. Il vivait en quelque sorte dans la rue, afin de pouvoir jouer le rôle d'amant sacrifié près de la baronne et lui régaler l'esprit des péchés qu'elle interdisait à sa chair. Un homme qui possède le privilège de couler les choses lestes dans l'oreille d'une dévote est à ses yeux un homme charmant. Si ce lion exemplaire eût mieux connu le cœur humain, il aurait pu sans danger se permettre quelques amourettes parmi les grisettes de Besançon qu'il regardait comme un roi. Ses affaires se seraient avancées auprès de la sévère et prude baronne. Avec Philomène, ce caton paraissait dépensier. Il professait la vie élégante et lui montrait en perspective le rôle brillant d'une femme à la mode à Paris, où il irait comme député. Ces savantes manœuvres furent couronnées par un plein succès. En 1834, les mères des 40 familles nobles qui composent la haute société byzantine citaient le jeune monsieur Amédée de Soulas comme le plus charmant jeune homme de Besançon. Personne n'osait lui disputer la place au coq de l'hôtel de Rupt, et tout Besançon le regardait comme le futur époux de Philomène de Watteville. Il y avait déjà eu même à ce sujet quelques paroles échangées entre la baronne et Amédée, auxquelles la prétendue nullité du baron donnait une certitude. Mademoiselle Philomène de Watteville, à qui sa fortune, énorme un jour, prêtait alors des proportions considérables, élevée dans l'enceinte de l'hôtel de Rupt que sa mère quitta rarement, tant elle aimait le cher archevêque, avait été fortement comprimée par une éducation exclusivement religieuse et par le despotisme de sa mère qui la tenait sévèrement par principe. Philomène ne savait absolument rien. Est-ce savoir quelque chose que d'avoir étudié la géographie d'Angutrie, l'histoire sainte, l'histoire ancienne, l'histoire de France, les 4 règles, le tout passé au tamis d'un vieux jésuite. Dessin, musique et danse furent interdits comme plus propre à corrompre qu'à embellir la vie. La baronne apprit à sa fille tous les points possibles de la tapisserie et les petits ouvrages de femme, la couture, la broderie, le filet. À 17 ans, Philomène n'avait lu que les lettres édifiantes et des ouvrages sur la science héraldique. Jamais un journal n'avait souillé ses regards. Elle entendait tous les matins la messe à la cathédrale où l'amenait en sa mère, revenait déjeuner, travaillait après une petite promenade dans le jardin et recevait les visites assises près de la baronne jusqu'à l'heure du dîner. Puis après, excepté les lundis et les vendredis, elle accompagnait Madame de Watteville dans les soirées sans pouvoir y parler plus qu'il ne voulait entendre l'ordonnance maternelle. À 17 ans, Mademoiselle de Watteville était une jeune fille frêle, mince, plate, blonde, blanche et de la dernière insignifiance. Ses yeux d'un bleu pâle s'embellissaient par le jeu des paupières qui, baissée, produisait une ombre sur ses joues. Quelques taches de rousseur nuisaient à l'éclat de son front, d'ailleurs bien coupé. Son visage ressemblait parfaitement à ceux des saintes d'Albert Durer et des peintres antérieurs aux Pérugins. Même forme grasse, quoique mince, même délicatesse attristée par l'extase, même naïveté sévère. Tout en elle, jusqu'à sa pose, rappelait ces vierges dont la beauté ne reparaît dans son lustre mystique qu'aux yeux d'un connaisseur attentif. Elle avait de belles mains, mais rouges, et le plus joli pied, un pied de châtelaine. Habituellement, elle portait des robes de simple cotonnade, mais le dimanche et les jours de fête, sa mère lui permettait la soie. Ces modes faites à Besançon la rendaient presque laide. Tandis que sa mère essayait d'emprunter de la grâce, de la beauté, de l'élégance aux modes de Paris, d'où elle tirait les plus petites choses de sa toilette, par les soies du jeune monsieur de Soulas, Philomène n'avait jamais porté de bas de soie, ni de brodequins, mais des bas de coton et des souliers de peau. Les jours de gala, elle était vêtue d'une robe de mousseline, coiffée en cheveux et avait des souliers en peau bronzée. Cette éducation et l'attitude modeste de Philomène cachaient un caractère de fer. Les physiologistes et les profonds observateurs de la nature humaine vous diront, à votre grand étonnement peut-être, que dans les familles, les humeurs, les caractères, l'esprit, le génie reparaissent à de grands intervalles absolument comme ce qu'on appelle les maladies héréditaires. Ainsi, le talent, de même que la goutte, saute quelquefois de deux générations. Nous avons de ce phénomène un illustre exemple dans George Sand, en qui revivent la force, la puissance et le concept du maréchal de Saxe, duquel est petite fille naturelle. Le caractère décisif, la romanesque audace du fameux Vadeville, était revenu dans l'âme de sa petite nièce, encore aggravée par la ténacité, par la fierté du sang des deux ruptes. Mais ses qualités ou ses défauts, si vous voulez, étaient aussi profondément cachés dans cette âme de jeune fille, en apparence molle et débile, que les laves bouillantes le sont sous une colline avant qu'elle ne devienne un volcan. Madame de Watteville seule soupçonnait peut-être ce lait des deux sangs. Elle se faisait si sévère pour sa Philomène qu'elle répondit un jour à l'archevêque qui lui reprochait de la traiter trop durement. « Laissez-moi la conduire, monseigneur, je la connais. Elle a plus d'un Belzébuth dans sa peau. » La baronne observait d'autant mieux sa fille qu'elle y croyait son honneur de mère engagé. Enfin, elle n'avait pas autre chose à faire. Clotilde Rupt, alors âgée de 35 ans et presque veuve d'un époux qui tournait des coquetiers en toute espèce de bois, qui s'acharnait à faire des cercles à cirer en bois de fer, qui fabriquait des tabatières pour sa société, coquetait en tout bien tout honneur avec Amédée de Soula. Quand ce jeune homme était au logis, elle renvoyait, rappelait tour à tour sa fille et tâchait de surprendre dans ce jeune homme des mouvements de jalousie afin d'avoir l'occasion de les dompter. Elle imitait la police dans ses rapports avec les républicains, mais elle avait beau faire, Philomène ne se livrait à aucune espèce d'émeute. La sèche des vôtres reprochait alors à sa fille sa parfaite insensibilité. Philomène connaissait assez sa mère pour savoir que si elle eût trouvé bien le jeune monsieur de Soulas, elle se serait attiré quelques vertes remontrances. Aussi, à toutes les agaceries de sa mère, répondait-elle par ces phrases si improprement appelées jésuitiques, car les jésuites étaient forts, et ses réticences sont les chevaux de frise derrière lesquels s'abrite la faiblesse. La mère traitait alors sa fille de dissimulée. Si par malheur un éclat du vrai caractère des Vadeville et des deux Rupts se faisait jour, la mère rebattait Philomène avec le fer du respect sur l'enclume de l'obéissance passive. Ce combat secret avait lieu dans l'enceinte la plus secrète de la vie domestique à huis clos. Le vicaire général, ce cher abbé de Grancey, l'ami du défunt archevêque, quelque fort qu'il fût en sa qualité du grand pénitencier du diocèse, ne pouvait pas deviner si cette lutte avait ému quelque haine entre la mère et la fille, si la mère était par avance jalouse ou si la cour que faisait Amédée à la fille dans la personne de la mère n'avait pas outrepassé les bornes. En sa qualité d'ami de la maison, il ne confessait ni la mère ni la fille. Philomène, un peu trop battue, moralement parlant, à propos du jeune monsieur de Soulas, ne pouvait pas le souffrir, pour employer un terme du langage familier. Aussi, quand il lui adressait la parole en tâchant de surprendre son cœur, le recevait-elle assez froidement. Cette répugnance, visible seulement aux yeux de sa mère, était un continuel sujet d'admonestation. « Philomène, je ne vois pas pourquoi vous affectez tant de froideur pour Amédée. Est-ce parce qu'il est l'ami de la maison et qu'il nous plaît, à votre père et à moi ?»« Mais maman, répondit un jour la pauvre enfant, si je l'accueillais bien, n'aurais-je pas plus de tort ?»« Mais qu'est-ce que cela signifie ?» s'écria madame de Watteville. « Qu'entendez-vous par ces paroles ?» Votre mère est injuste, peut-être, et selon vous, elle le serait dans tous les cas. Ah, que jamais ne sorte plus de pareilles réponses de votre bouche à votre mère, etc., etc. Cette querelle dura 3 heures 3 quarts, et Philomène en fit l'observation. La mère devint pâle de colère et renvoya sa fille dans sa chambre, où Philomène étudia le sens de cette scène sans rien y trouver, tant elle était innocente. Ainsi, le jeune monsieur de Soulas, que toute la ville de Besançon croyait bien près du but vers lequel il tendait, cravate déployée et à coups de peau de vernis, et qui lui faisait user tant de noir à cirer ses moustaches, tant de jolis gilets de fer de chevaux et de corsets, car il portait un gilet de peau, le corset des lions. Amédée en était plus loin que le premier venu, quoiqu'il eût pour lui le digne noble abbé de Grancey. Philomène ne savait pas d'ailleurs encore, au moment où cette histoire commence, que le jeune comte Amédée de Souleyas lui fut destiné. « Madame, dit monsieur de Soulas en s'adressant à la baronne, en attendant que le potage un peu trop chaud se fût refroidi, et en affectant de rendre son récit quasi romanesque, un beau matin, la malle-poste a jeté dans l'hôtel national un Parisien qui, après avoir cherché des appartements, s'est décidé pour le premier étage de la maison de mademoiselle Calard rue du Perron. Puis l'étranger est allé droit à la mairie et déposé une déclaration de domicile réelle et politique. Enfin, il s'est fait inscrire au tableau des avocats après la cour en présentant des titres en règle et il a mis des cartes chez tous ses nouveaux confrères, chez les officiers ministériels, chez les conseillers de la cour et chez tous les membres du tribunal. Une carte où se lisait Albert Savaron. Ah, le nom de Savaron est célèbre, dit mademoiselle Philomène, qui était très forte en sciences héraldiques. Les Savaron de Savarus sont une des plus vieilles, des plus nobles et des plus riches familles de Belgique. Non, il est français, troubadour, reprit Amédée de Soulas. S'il veut prendre les armes des Savaron de Savarus, il y mettra une barre. Il n'y a plus en Brabant qu'une demoiselle Savarus, une riche héritière à marier. Ah, la barre est signe de bâtardise, mais le bâtard d'un comte de Savarus est noble, reprit Philomène. Assez, Philomène, dit la baronne. Vous avez voulu qu'elle sue le blason, fit monsieur de Watteville, elle le sait bien. Continuez à m'aider. Alors vous comprenez que dans une ville où tout est classé, défini, connu, casé, chiffré, numéroté comme à Besançon, Albert Savaron a été reçu par nos avocats sans aucune difficulté. Chacun s'est contenté de dire « Voilà un pauvre diable qui ne sait pas son Besançon. Quel diable a pu lui conseiller de venir ici? Qui prétend-il faire? Envoyer sa carte chez les magistrats au lieu d'y aller en personne? Quelle faute !» Aussi 3 jours après, plus de Savaron. Il a pris pour domestique l'ancien valet de chambre de feu M. Galard, Jérôme, qui sait faire un peu de cuisine. On a d'autant mieux oublié Albert Savaron que personne ne l'a vu ni rencontré. Il ne va donc pas à la messe, dit Madame de Chavoncourt. Il y va le dimanche à Saint-Jean, mais à la première messe, à 8 heures. Il se lève toutes les nuits entre 1 heure et 2 du matin. Il travaille jusqu'à 8 heures. Il déjeune et après il travaille encore. Il se promène dans le jardin. Oh, il en a fait 50 fois, 60 fois le tour. Alors il rentre, il dîne et il se couche entre 6 et 7 heures. Mais comment savez-vous tout cela ? Dit Madame de Chavancourt à Monsieur de Soulas. D'abord, madame, je demeure rue Neuve au coin de la rue du Perron. J'ai vu sur la maison où loge ce mystérieux personnage. Puis il y a naturellement des protocoles entre mon tigre et Jérôme. Ah, vous causez donc avec Babylas ? Que voulez-vous que je fasse dans mes promenades ? Eh bien, comment avez-vous pris un étranger pour avocat ? Dit la baronne en rendant ainsi la parole au vicaire général. Le premier président a joué le tour à cet avocat de le nommer d'office pour défendre aux assises un paysan à peu près imbécile, accusé de faux. Et M. Savaron a fait acquitter ce pauvre homme en prouvant son innocence et démontrant qu'il avait été l'instrument des vrais coupables. Non seulement son système a triomphé, mais il a nécessité l'arrestation de 2 des témoins qui, reconnus coupables, ont été condamnés. Ces plaidoiries ont frappé la cour et les jurés. L'un d'eux, un négociant, a confié le lendemain à M. Savaron un procès délicat qu'il a gagné. Dans la situation où nous étions par l'impossibilité où se trouvait M. Meyrier de venir à Besançon, M. de Garcenot nous a donné le conseil de prendre ce M. Albert Savaron en nous prédisant le succès. Dès que je l'ai vu, dès que je l'ai entendu, j'ai eu foi en lui et j'ai pas eu tort. A-t-il donc quelque chose d'extraordinaire ? Demanda Madame de Chavancourt. Oui, répondit le vicaire général. Eh bien, expliquez-nous cela, dit Madame de Vatteville. Mais la première fois que je le vis, dit l'abbé de Grancey, il m'a reçu dans la première pièce, après l'antichambre, l'ancien salon du bonhomme Galard, qu'il a fait peindre tout en vieux chêne et que j'ai trouvé entièrement tapissé de livres de droit contenus dans des bibliothèques également peintes en vieux bois. Cette peinture et les livres sont tout le luxe, car le mobilier consiste en un bureau de vieux bois sculpté, 6 vieux fauteuils en tapisserie aux fenêtres des rideaux, aux couleurs carmélites bordées de vert et un tapis vert sur le plancher. Le poêle de l'antichambre chauffe aussi cette bibliothèque. En attendant là, je ne figurais point mon avocat sous des traits jeunes. Ce singulier cadre est vraiment en harmonie avec la figure, car M. Savaron est venu en robe de chambre de mérinos noir, serré par une ceinture en corde rouge, des pantoufles rouges, un gilet de flanelle rouge et une calotte rouge. La livrée du diable ! S'écria Madame de Vatteville. Oui, dit l'abbé, mais une tête superbe. Cheveux noirs, mélangés déjà de quelques cheveux blancs, des cheveux comme en sont les Saint-Pierre et les Saint-Paul de nos tableaux, à boucles touffues et luisantes, des cheveux durs comme des crins, un cou blanc et rond comme celui d'une femme, un front magnifique séparé par ce sillon puissant que les grands projets, les grandes pensées, les fortes méditations inscrivent au front des grands hommes. Un teint olivâtre, marbré de taches rouges, un nez carré et des yeux de feu, puis les joues creusées, marquées de 2 rides longues, pleines de souffrance, une bouche à sourire sarde et un petit menton mince et trop court. La patte d'oie au temple, les yeux caves, roulant sous des arcades sourcières comme 2 globes ardents, mais malgré tous ces indices de passion violente. Un air calme, profondément résigné, la voix d'une douceur pénétrante et qui m'a surpris au palais par sa facilité, la vraie voix de l'orateur, tantôt pure et rusée, tantôt insinuante, étonnant, quand il le faut, puis se pliant au sarcasme et devenant alors incisive. Monsieur Albert Savaron est de moyenne taille, ni grand ni maigre. Enfin, il a des mains de prélat. La seconde fois que je suis allé chez lui, il m'a reçu dans sa chambre, qui est contiguë à cette bibliothèque, et a souri de mon étonnement quand j'y ai vu une méchante commode, un mauvais tapis, un lit de collégien et aux fenêtres des rideaux de calicot. Il sortait de son cabinet où personne ne pénètre, m'a dit Jérôme, qui n'y entre pas et qui s'y est contenté de frapper à la porte. Monsieur de Savaron a fermé lui-même cette porte à clé devant moi. La troisième fois, il déjeunait dans sa bibliothèque de la manière la plus frugale, mais cette fois, comme il avait passé la nuit à examiner mes pièces, que j'étais avec notre avoué et que nous avions resté trop longtemps ensemble, et que le cher monsieur Girardet est verbeux, j'ai pu me permettre d'étudier cet étranger. Certes, c'est pas un homme ordinaire. Il y a plus d'un secret derrière ce masque à la fois terrible et doux, patient et impatient, plein et creusé. Je l'ai trouvé voûté légèrement, comme tous les hommes qui ont quelque chose de lourd à porter. Et pourquoi cet homme si éloquent a-t-il quitté Paris ? Mais dans quel dessein est-il venu à Besançon ? On lui a donc pas dit combien les étrangers y avaient peu de chances de réussite. On s'y servira de lui, mais les Byzantins ne lui laisseront pas se servir d'eux. Pourquoi, s'il est venu, a-t-il fait si peu de frais qu'il a fallu la fantaisie du premier président pour le mettre en évidence ? Dit la belle madame de Chavoncourt. Et après avoir bien étudié cette belle tête, reprit l'abbé de Grancey, qui regarda finement son interruptrice, en donnant à penser qu'il taisait quelque chose, et surtout après l'avoir entendu répliquant ce matin à l'un des zingues du barreau de Paris, je pense que cet homme, qui doit avoir 35 ans, produira plus tard une grande sensation. Pourquoi nous en occuper ? Votre procès est gagné, vous l'avez payé, dit madame de Vanneville, en observant sa fille, qui, depuis que le vicaire général parlait, était comme suspendue à ses lèvres. La conversation prit un autre cours et il ne fut plus question d'Albert Savaron. Le portrait esquissé par le plus capable des vicaires généraux du diocèse eut d'autant plus l'attrait d'un roman pour Philomène qu'il s'y trouvait un roman. Pour la première fois de sa vie, elle rencontrait cet extraordinaire, ce merveilleux que caressent toutes les jeunes imaginations et au-devant duquel se jette la curiosité si vive à l'âge de Philomène. Quel être idéal que cet Asbert sombre, souffrant, éloquent, travailleur, comparé par mademoiselle de Vianneville à ce gros comte joufflu, crevant de santé, diseur de fleurettes, parlant d'élégance en face de la splendeur des anciens comtes de Rupt. Amédée ne lui valait que des querelles et des remontrances. Elle ne le connaissait d'ailleurs que trop, et cet Albert Savaron offrait bien des énigmes à déchiffrer. « Albert Savaron de Savarus, » répétait-elle en elle-même. Puis le voir, l'apercevoir. Ce fut le désir d'une fille jusque-là sans désir. Elle repassait dans son cœur, dans son imagination, dans sa tête, les moindres phrases dites par l'abbé de Grancey, car tous les mots avaient porté coup. « Un beau front, » se disait-elle en regardant le front de chaque homme assis à la table. « Je n'en vois pas un seul de beau. Celui de M. Soulas est trop bombé. Celui de M. de Grancey est beau, mais il a 70 ans. Il n'a plus de cheveux. On ne sait plus où finit le front. Qu'avez-vous, Philomène ? Vous ne mangez pas ? Je n'ai pas faim, maman, dit-elle. Oh, des mains de prélat, reprit-elle en elle-même. Je ne me souviens plus de celle de notre bel archevêque qui m'a cependant confirmé. Enfin, au milieu des allées et venues qu'elle faisait dans le labyrinthe de sa rêverie, elle se rappela, brillant à travers les arbres des deux jardins contigus, une fenêtre illuminée qu'elle avait aperçue de son lit quand par hasard elle s'était éveillée pendant la nuit. Et c'était donc sa lumière, se dit-elle. Je pourrais le voir, je le verrai. Monsieur de Grancey, tout est fini pour le procès du chapitre, dit à brûle-pourpoint Philomène au vicaire général pendant un moment de silence. Madame de Vatteville échangea rapidement un regard avec le vicaire général. Et qu'est-ce que cela vous fait, ma chère enfant, dit-elle à Philomène, en y mettant une feinte douceur qui rendit sa fille circonspecte pour le reste de ses jours. On peut nous mener en cassation, mais nos adversaires du regarderont à deux fois, répondit l'abbé. Je n'aurais jamais cru que Philomène pût penser pendant tout un dîner à un procès, reprit madame de Manneville. Ni moi non plus, dit Philomène, avec un petit air rêveur qui fit rire. Mais monsieur de Grancey s'en occupait tant que je m'y suis intéressé. Oh, c'est bien innocent. On se leva de table et la compagnie revint au salon. Pendant toute la soirée, Philomène écouta pour savoir si on parlerait encore d'Albert Savaron. Mais hormis les félicitations que chaque arrivant adressait à l'abbé sur le gain du procès et où personne ne mêla l'éloge de l'avocat, il n'en fut plus question. Mademoiselle de Watteville attendit la nuit avec impatience. Elle s'était promis de se lever entre 2 et 3 heures du matin pour voir les fenêtres du cabinet d'Albert. Quand cette heure fut venue, elle éprouva presque du plaisir à contempler la lueur que projetaient à travers les arbres, presque dépouillés de feuilles, les bougies de l'avocat. À l'aide de cette excellente vue que possède une jeune fille et que la curiosité semble étendre, elle vit Albert écrivant. Elle crut distinguer la couleur de l'ameublement qui lui parut être rouge. La cheminée élevait au-dessus du toit une épaisse colonne de fumée. « Quand tout le monde dort, il veille, comme Dieu !» se dit-elle.